Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Dans cette émission, eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comment surmonter les obstacles à la gratuité de l'éducation des bases en RDC? C'est le premier sujet de cette émission de la vie au quotidien. Nous avons déjà en ligne Godé Kayembe, président de la Lisadel. Godé Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne Jacques Chimbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Jacques Chimbalanga, bonjour. Bienvenue dans cette émission, Jacques Chimbalanga. Nous parlons aujourd'hui des obstacles à la gratuité, comment les surmonter, des questions et préoccupations. Composez le 081 890 63 94, le standard est déjà ouvert. Dans la deuxième partie de l'émission, au Capi Service, nous allons parler du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission que coordonne Marcel Ngombo. Au micro, Jody Daniel Kajama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
À Maagui.
Okapi.
Sur 96 FM.
Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de votre fidélité, fidèles auditeurs. Voilà. Alors, nous parlons aujourd'hui des obstacles à la gratuité de l'enseignement des bases et comment les surmonter. De nombreuses difficultés surgissent dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. C'est entre autres la question de la paie des enseignants. Certaines écoles conventionnées catholiques et protestantes demandent aux parents de reprendre l'éducation en charge. C'est ce que la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, a dénoncé au cours d'une marche le 10 décembre dernier. Par ailleurs, la Lisadel accuse le ministre de l'EPST de saboter la mise en œuvre de la gratuité et demande au procureur général, près la Cour des cassations, d'examiner le rapport de l'inspection générale des finances sur le torpillage de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Alors nous avons en ligne Godé Kayembe qui est président de la Lisadel. Godé Kayembe, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'après vous, quels sont les obstacles à la gratuité de l'éducation, de l'enseignement des bases aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Oui, nous avons dit que l'obstacle majeur, d'abord je vous remercie pour m'avoir associé à cette émission. Je voudrais d'abord vous dire d'emblée que le président de la République a pris une mesure salutaire. Toute la société civile était battue, y compris la Lisadel, y compris Connep. Je salue en passant M. Chimbalanga, qui est le notre secrétaire exécutif. Nous sommes battus pour que la gratuité soit effective afin de permettre à tous les enfants orphelins, les enfants pauvres, les pauvres, d'accéder au système éducatif. Nous avons démontré clairement que si l'État pouvait payer à la place des parents, tous les enfants iraient à l'école. Et l'État, c'était le député. Il a mis à la disposition du ministère de l'EPFP, de moyens dont les enseignants avaient besoin après la rencontre de Bibois pour que cela se réalise. Et c'est ça a été fait. Les enseignants qui avaient été payés à l'époque avec 70 000 francs à l'intérieur du pays sont retrouvés avec 190 000 francs congolais. Ceux qui étaient payés 140 000 francs sont retrouvés avec 330 000 francs et on sait, et tout le monde le sait, que dans ce pays, dès que les parents contribuaient, tous les enseignants avaient plus de 200 000 francs. Et ça, M. Chimbalanga ne peut pas le comprendre. Dès que les parents contribuaient, trop peu d'enseignants vers ce montant-là. Mais l'État a payé au-delà de ce que beaucoup d'enseignants recevaient. 90% des écoles sont satisfaits. Ils sont payés, ils sont satisfaits. Mais, malheureusement, on se retrouve avec un petit groupe d'écoles où les enseignants, où les parents payaient beaucoup d'argent. Je dirais que les parents pouvaient payer $500 à l'enseignant. Et ça fait que lorsqu'on paye tout le monde 360 000, et ces réponses sont lésées, il y a manque à gagner. Et il fallait que nous ayons un gestionnaire capable, celui qui gérait l'école, les écoles, notamment le ministre, avec la volonté et la détermination. Il aurait négocié pour mettre fin, pour que cette situation soit réglée. Mais malheureusement, comme lui, dans la logique de torpiller la gratuité, au lieu de les encourager à continuer à négocier pour régler le problème des enseignants, lui a continué à enfoncer la clou. Ça fait qu'aujourd'hui, tous ces enseignants sont mécontents, ils se retrouvent en difficulté, et puis leur convention, notamment l'Église catholique protestante, se sont appuyées sur les 10% des écoles qui ont des problèmes pour pouvoir revendiquer que les parents continuent à prendre l'éducation en charge. Tout en sachant que lorsque les parents prennent l'éducation en charge, d'abord, la valeur de l'enseignant est détruite, il est capable de pouvoir évaluer les enfants, et deuxièmement, et les enfants pauvres, et la majorité, n'accèdent pas au système, ça fait qu'il y a plus de 4 millions d'enfants qui sont retrouvés dans l'arbre.
Oui, voilà Godé Kayembe, pourquoi
L'obstacle pour la gratuité actuellement, c'est le ministre Le Pepe, c'est l'archevêque de Kinshasa, Monsieur Bongo, et c'est toutes les conventions qui ont suivi le pas de Monsieur Bongo. Ce sont tous les obstacles pour la gratuité, la mise en œuvre de la gratuité.
Alors, comment pouvez-vous affirmer que c'est le ministre de l'EPST et le cardinal Ambongo qui bloque la gratuité?
Voilà l'argument que je vais développer. Lorsque le ministre il crée de fausses unités, l'État lui donne la juste sur le fond. Quand on vote le budget est voté en fonction des besoins présents. On ne peut pas, pendant l'exécution du budget, créer le besoin. Le ministre a créé des besoins supplémentaires qui n'avaient rien à faire à l'amélioration du système éducatif. Il a créé le besoin supplémentaire. Il a subdivisé les subdivisions. Les subdivisions d'après l'arrêté laissé par Macaire. Dans la subdivision, on doit y avoir au moins 26 personnes qui doivent être prises en charge. Mais lui, il crée les subdivisions, il a fait de la subdivision 1300 unités. Et pour un bureau de 7 mètres sur 7, 1300 personnes qui doivent être dans ces bureaux-là. Et ces gens-là sont payés avec l'argent destiné aux enseignants qui étaient déjà sur la liste des paiements. Deuxièmement, il crée un service permis d'identification, un petit service qui est à la division. Il le crée, il le remet au rang de division, et cette théorie, il a fait 400 personnes.
Godé Kayembe, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à Jacques Chimbalanga, qui est le coordonnateur du CONEPT. Jacques, Godé a pointé du doigt le ministre de l'EPST ainsi que l'Église catholique d'être les constituer des obstacles à l'éducation des bases en République démocratique du Congo. Quel est votre avis à ces sujets? Jacques Chimbalanga.
Si vous demandez notre analyse à ce sujet, nous avons déjà eu à lui dire, et à cela, nous avions dit et nous continuons à dire que tant que le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique ne va pas porter sa casaque en tant que ministre, eh bien les choses vont se gâter davantage. Et se gâter davantage, ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais c'est aussi dans les provinces. Deuxième chose, c'est que tant que l'Église catholique, surtout parce que 15% l'Église catholique qui menace la fréquentation scolaire des enfants par la mise en place des barrières financières, à 85% quand on regarde à travers le pays, c'est nommément, il faut la citer aujourd'hui, l'Église catholique vient ensuite l'Église protestante, et c'est pratiquement à 1%, parce qu'il n'y a que 2, 3, 4 termes catholiques qui menacent la gratuité, parce que, en fait, quand vous regardez dans toutes les provinces, présentement, je suis par exemple à Mbandaka, les écoles qui menacent la gratuité, ce sont les écoles uniquement catholiques. Quand vous allez au sud Kivu, c'est 95%. Si vous allez partout, c'est une, absolument les écoles catholiques.
Alors, on doit se poser alors Jacques Tshimbalanga, si les écoles catholiques, conventionnées catholiques, menacent la gratuité, peut-être c'est pour assurer, ils veulent garder le standing, le niveau de l'éducation, en continuant à bien payer les enseignants pour qu'ils assurent, continuent à assurer une éducation de qualité aux enfants.
Écoutez, la question de l'éducation de qualité n'est pas l'apanage seulement de l'Église catholique ou de l'école catholique. La question de l'éducation de qualité trouve ses ressources dans le financement général de l'éducation. Il est vrai que toutes ces gesticulations des confessions religieuses trouvent son origine dans le déficit de l'éducation. Ce gap de financement de l'éducation qui emporte la charge, c'est effectivement l'État. L'État qui est le pouvoir organisateur. C'est comme ça que nous disons. Mais l'État, c'est cet État-là qui est en train de se reconstruire, de se donner les moyens. On ne va pas dire aujourd'hui que l'État ne fait absolument rien. Ce serait malhonnête que de dire cela. C'est arrivé qu'il va faire. L'État a par exemple commencé à prendre petit à petit en charge la question de la prise en charge des enseignants. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé. Il y a encore le fait que l'enseignant doit encore être très bien motivé avec un salaire bien motivant. C'est encore un autre... Pour un pays qui a un tissu économique aussi délabré comme le nôtre, et que lorsqu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, nous pensons que l'ensemble de la communauté nationale devrait justement se liguer pour pouvoir pousser les réformes jusqu'au bout. Et donc, s'il y a encore des gens qui continuent encore à avoir des rêves passéistes du genre retournant aux parents, je crois que ça, c'est véritablement chercher à plonger davantage notre système éducatif dans le... Aujourd'hui, par exemple...
Oui, vous sortez... Les autres confessions... Vous sortez d'être entrecoupé, Jacques Tshimbalanga.
Les autres confessions... Oui.
Oui, vous sortez entrecoupé de temps en temps. Un instant, on va suivre la réaction d'un enseignant du lycée Kassavubu, Monsieur Jules Difoyamé. Selon ce pédagogue, la mesure de la gratuité de l'enseignement décrétée par le chef de l'État est salutaire parce qu'elle a permis à des milliers d'enfants congolais de retrouver le chemin de l'école. Cependant, le nombre pléthorique des enfants dans les salles de classe ne facilite pas le suivi de chaque élève, surtout dans les écoles conventionnées catholiques. Il est au micro de Tati Mapoukou.
Au fait, son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a sauvé des milliers d'enfants qui restaient à la maison. Comment nous avons découvert cela? En décrétant la gratuité, les effectifs dans des salles de classe ont triplé. Des classes où il y avait moins d'élèves, aujourd'hui, il y a un problème de banc. Ça, c'est le point positif. En plus, les systèmes de prise en charge, les systèmes de prise en charge des apprenants par les parents, d'abord, n'étaient pas favorables pour un grand nombre d'écoles. Et aujourd'hui, avec la gratuité, les trois quarts, je pourrais dire les trois quarts des écoles congolaises, les enseignants ont vu leur salaire triplé. Des écoles qui bénéficient du système de prise en charge, dont les enseignants se retrouvent, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc ça ne représente presque rien. La majorité des établissements scolaires sont fréquentés par des élèves, des parents pauvres. Alors avec la gratuité, son Excellence Monsieur le Président a triplé les salaires. On est arrivé à plus de 300 000 francs. Ça a aidé plusieurs enseignants qui hier étaient mal payés. Mais aujourd'hui, il se pose le problème des écoles, de cette minorité-là d'écoles qui avaient se retrouvé de $700, $600. Mais ça ne résout pas les problèmes. En plus, c'était les chefs d'établissement qui se retrouvaient dans les systèmes de prise en charge, les systèmes de prise en charge, de motivation. Nous encourageons l'approche de gratuité. Mais aujourd'hui, il y a maintenant, sur le terrain, il y a une contradiction, il y a des écoles, il y a de la grève qu'on a décrétée par les syndicats, et il y a d'autres, d'une part, la grève décrétée par les syndicats, d'autre part, l'État ne voulait pas reconnaître cette grève, donc en fait, les enseignements ne se donnent pas très bien.
Bien, alors, M. Godet Kayembe, vous venez de suivre cet enseignant du lycée Kassavubu. Votre réaction, d'après lui, il y a une minorité des écoles dont les enseignants ont gagné $700. Les autres avaient des salaires un peu plus bas, mais maintenant, leurs salaires ont triplé. Mais les autres qui gagnaient un peu plus sont mécontents parce qu'ils ont vu leur salaire être réduit, être baissé. Godet Kayembe.
Mais ce que j'ai dit à l'introduction, j'ai dit que 90% d'écoles sont retrouvées, 90% d'enseignants des différentes écoles sont retrouvés parce qu'ils avaient un salaire très bas, bien que les parents contribuaient. Il y avait trop peu d'enseignants qui arrivaient à avoir ne plus que 200 000 francs, trop peu d'enseignants. Aujourd'hui, la majorité d'enseignants sont contents. Mais c'est les quelques écoles qu'on appelle les écoles pour les parents. Pardon?
Oui, allez-y. Monsieur Godet, allez-y.
Les écoles catholiques, et là où il y a eu des petits problèmes, mais qui ont donné l'opportunité à leurs chefs religieux de pouvoir réclamer la reprise de la gratuité, parce qu'ils doivent se retrouver en termes de pourcentage. Vous vous rappelez que lorsque chaque parent pouvait payer à l'école 500 francs, 1500 dollars, 100 dollars revenaient, allaient tout de suite au diocèse. Ça faisait qu'ils avaient des fortunes. Et lorsque l'État congolais décide de prendre les enfants en charge, de prendre les enseignants en charge, et il y a manque à gagner pour les évêques. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'argent, où les individus ne se retrouvent pas lorsque l'État prend l'enseignement directement en charge. Donc ils sont déjà habitués à ce système de prédation. Ça fait que nous avons cette situation-là. Donc aujourd'hui, la gratuité, en principe, s'il n'y aurait pas l'intervention des cardinals, s'il n'y aurait pas la manipulation de lui-même, le ministre, aujourd'hui, la gratuité serait une hérésie totale.
Alors, vous avez dernièrement déposé un mémo. Vous demandez au procureur général près de la Cour de cassation d'examiner le rapport de l'inspection générale des finances sur le torpillage de la gratuité de l'éducation des bases. Que dit exactement ce rapport? Donc, il y a des gens qui détournent les fonds qui sont destinés à la paie des enseignants?
Mais effectivement, il y a eu dans ce rapport, il y a eu 62 milliards de dollars détournés au niveau de l'EPST. Et d'ailleurs, si vous suivez bien, notre système éducatif, l'effectif au niveau de l'EPST est devenu exagéré. Tout simplement parce que leur service de COVID s'est coupé. Ce service depuis le Mobutu, ce n'est pas aujourd'hui. C'est un service où il y a eu beaucoup d'écoles fictives, où il y a eu beaucoup d'écoles qui n'existent pas, qui sont dans les mallettes, qui sont gérées par les politiciens, ou les écoles, les écoles qui sont dans les mallettes. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça pèse énormément sur l'État. Et imaginez-vous, lorsque l'État congolais entre en programme d'assistance culturelle avec la Banque mondiale, l'effectif enseignant était de 160 000. Demandez-vous que l'État congolais, en 84 jusqu'en 92, le budget de l'État est affecté à l'éducation est resté à 1% de 84 jusqu'en 92. Et plutôt en 2012, le budget était de 1%. Mais le spécif enseignant du temps des marqueurs, il est parti de 160 000 à 540 000. La question qu'on se pose, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur éducatif. Qu'est-ce qui fait? Le nombre d'enseignants augmente régulièrement. Deuxièmement,
Godet Kayembe, je reviens à vous. Le temps d'accueillir un auditeur, les effectifs des enseignants ils sont passés de 160 000 à 540 000. C'est énorme. On va accueillir Polygel Ilenda de Kinshasa. Bonjour Polygel.
Oui, bonjour Jolie.
Alors, nous parlons des obstacles à la gratuité de l'enseignement des bases. Comment les surmonter? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, par rapport à ça, ce que je vais dire à l'invité, et aux autorités de l'EPSPT. D'abord, nous avons accueilli le message de la gratuité avec toute fierté et la joie. Mais ce que nous avons remarqué lors des contrôles organisés par Sécopé, c'était vraiment très, très bizarre. Il y a des écoles qui existaient déjà, ça et là, surtout en province, qui étaient déjà effectives et qui travaillaient. Malheureusement, lors des contrôles, les services de Sécopé avaient même recruté des écoles fantômes qui n'existaient pas. Donc, ce sont des écoles à qui on a attribué des numéros matriculés depuis longtemps, mais qui ne fonctionnaient pas, qui n'existaient même pas. Mais lors de contrôle, toutes ces écoles se sont réapparées. On a recruté des enseignants, même des incompétents. Et au finish, lors du mécanisation, ce sont plus ces écoles-là qui étaient payées par rapport aux anciennes écoles. Alors, que pensez-vous maintenant? Les anciennes écoles qui existaient déjà avec des enseignants qui attendaient d'être mécanisés, subitement, la mécanisation vient et ce sont de nouveaux professeurs ou de nouveaux enseignants qui sont mécanisés au détriment des anciens. Est-ce que ces gens-là vont accepter de continuer d'enseigner gratuitement ou comment? Donc, le PSPT doit faire un effort pour trouver les mécanismes à contourner ces systèmes-là de Sécopé où ils recrutent des nouveaux enseignants avec des nouvelles écoles qui n'existent pas. Puisqu'il y a trop de numéros matriculés, trop d'écoles qui ont des numéros matriculés, mais inexistants. Lors des contrôles, cela vient directement et sont mécanisés au détriment des enseignants et des écoles qui existaient déjà.
D'accord. Merci, Polydor Ilenda. Jacques Timbalanga, vous avez suivi qu'il y a beaucoup de cafouillage au niveau du Sécopé. Alors, quelle est la solution aujourd'hui? Comment faire pour surmonter toutes ces difficultés? Jacques Timbalanga.
Bien, pour surmonter les difficultés, la première des choses, c'est d'abord la discipline dans la gestion des ressources humaines et donc des enseignants au niveau du ministère de l'EPST. Quand, par exemple, le ministère continue à surplomber le cadre organique, là où on exige 58 personnes comme personnel, on va jusqu'à 500 à 800. Ça veut dire que là, il y a manifestement une mauvaise volonté, la mauvaise volonté qui va commencer justement à saper toute action qui viendrait pour améliorer la situation des...
Oui, Jacques Timbalanga, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique avec Jacques.
En réalité,
oui, Jacques, vous sortez entrecoupé. Tati va vous rappeler tout à l'heure, peut-être sur une autre ligne, parce que celle-là pose des soucis. On va poursuivre avec Godet Kayembe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ces difficultés? Vous avez suivi l'auditeur à déplorer au niveau de Sécopé. Vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup de cafouillage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tous ces problèmes, Godet Kayembe?
Le cafouillage qui est au niveau du système de l'EPST, il est encouragé par le secrétaire général, parce que lui-même, le secrétaire général, il fut l'ancien directeur de Sécopé. Donc, c'est lui le moteur, le responsable du système de cafouillage. Et celui, le directeur actuel, cette personne, on doit les arrêter. Et quand on les arrête, on doit publier la cartographie des écoles pour l'ensemble de la République. École par territoire, par collectivité, par province. Et cela doit permettre à ce que le ministère de l'Intérieur soit impliqué pour identifier les vraies écoles. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va publier la cartographie des écoles et avec l'implication des services de sécurité, on n'aura pas plus de 300 000 enseignants dans cette République. Mais aujourd'hui, on en compte plus de... Ça doit être 1 million aujourd'hui, mais on va réduire davantage. Et tant que cela n'est pas fait, le président de la République et son gouvernement dépensent de l'argent pour rien.
Alors, Godet Kayembe, si je comprends bien, on a gonflé les listes des enseignants et puis ça complique maintenant la paye. Comment est-ce qu'on peut pas, à un certain moment, on parlait d'un contrôle. On devait contrôler les effectifs pour connaître qui sont les vrais et qui sont les faux enseignants.
Le fameux contrôle se fait régulièrement et tous ces contrôleurs sont corrompus. Donc, déjà au départ, quand ils partent d'ici, ils ont les écoles, ils ont des consignes. Vous avez suivi la personne qui est intervenue en province. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui n'existent pas, qui sont des écoles fantômes. Lorsqu'ils viennent avec le contrôle, ce sont des écoles qui sont payées au détriment des bonnes des écoles qui existent. Donc, c'est que ce sont des malcoulins. En fait, si c'est un système qui est organisé, mis en place pour détourner l'argent de la République, il faut absolument qu'on mette en place le mécanisme impliquer les services de sécurité. Donc, si on n'est plus les services de sécurité,
on va tout de suite dans toutes les provinces, dans toutes les collectivités, dans tous les territoires. Même les chefs de territoire aussi doivent intervenir. Et vous allez vous rendre compte qu'on va réduire à même de trois quarts tout ce qui est des écoles avant de disparaître. Et l'État va dégager des moyens pour améliorer les conditions des enseignants.
Bien. Jacques Timbalanga est de nouveau en ligne, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Si aujourd'hui certains enseignants ne sont pas payés, on a suivi, c'est parce qu'au niveau du service de paie des enseignants, c'est COP, il y a beaucoup de cafouillage, on a gonflé les listes, les effectifs des enseignants, et ça complique la situation. Alors, Godet a proposé, KMB, qu'on puisse impliquer les services de sécurité, qu'on arrête ceux qui sont à la base de ces cafouillages. Jacques Timbalanga, quel est votre point de vue?
Je crois que je suis d'abord d'accord. J'épouse à 110% la position de la Misadel concernant la traduction en justice de toutes ces personnes qui sont en train de commettre des
Oui, Jacques, la liaison téléphonique aujourd'hui, il est en Bandaka. Ça pose des petits, on a des petits soucis au niveau de la liaison téléphonique. Bon, on va l'écouter encore tout à l'heure. Alors, Goudé KMB, quelle est la suite? Vous avez déposé un mémo par rapport à ça. Vous avez interpellé le procureur général de la Cour de cassation afin d'examiner le rapport. Alors, est-ce qu'il y a déjà une suite de ces côtés-là, le rapport de l'inspection générale des finances?
Il n'y a pas encore une suite. Parce qu'en fait, nous ne le laissons pas. Nous croisons pas le bras. C'est notre rôle. C'est la mission de voler à la société civile, de faire pression pour que les choses viennent en ordre. Nous avons décidé d'aller en discussion sur les ministres, parce que c'est le ministre qui a été l'organisateur du système de torture, du système de l'accès des enfants à l'école. Et c'est lui qui a mis en place tous ces mécanismes accompagnés par les QM de ses copains et ses générales. Et nous sommes allés déposer notre plainte au niveau du procureur général de la Cour de cassation, parce que nous croyons que si toutes ces personnes sont arrêtées, ça sera peut-être une leçon pour les autres qui ne pourront pas continuer. Mais nous espérons que la justice prend son temps pour examiner tous les dossiers, avec les rapports, avec nos réactions, avec les éléments de preuve que nous allons introduire, notamment les différentes listes fabuleuses qui ont été envoyées au niveau des sous-divisions, et ça va permettre à ce que le procureur puisse avoir des éléments pour les arrêter et récupérer l'argent des réductions de 32 millions de dollars, 31 millions de dollars qui est détourné, aussi sanctionner ces hommes, ces personnes qui ont torpillé la politique du gouvernement. Parce qu'en fait, dans un pays sérieux, aujourd'hui, le ministre de l'EPC, le secrétaire général et son directeur seraient en prison. Mais comme sont dans un pays où tout traîne, ce n'est pas le président de la République qui doit défendre au niveau de la justice. La justice a fait son travail, il doit le faire vite. Mais on ne comprend pas comment les gens traînent les pieds.
Bien. Jacques Timbalanga n'est plus en ligne avec nous. Nous recevons à présent... Serge Bondedi qui est là. Serge, vous êtes secrétaire général. Vous êtes secrétaire général de l'ONG IMAE, Young Men Association for Education, et coordonnateur de la campagne École Lesa Mumbongote. Bonjour. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour, Papa Jody.
Bienvenue dans cette émission. Alors, nous étions en train de parler avec Godet Kayembe de la Lisadel qui est en train de dénoncer le cafouillage dans les obstacles à la gratuité de l'enseignement. Il a pointé du doigt principalement le ministre de l'EPST ainsi que l'Église catholique. Et il a par exemple donné l'exemple, les effectifs à l'époque du ministre Macaire, il y avait 160 000 enseignants. Aujourd'hui, on se retrouve avec 540 000 enseignants. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Et tout ça, c'est pour, d'après lui, freiner, torpiller la gratuité de l'enseignement. Alors, on est en train de parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ces obstacles, Serge Bondedi?
Oui, merci beaucoup de m'associer. Bon, en fait, vous savez, même le chef de l'État l'a dit lors de son discours, que chaque année, le pays connaît un taux de natalité à l'ordre de 2 millions d'enfants qui naissent, c'est-à-dire que la démographie évolue à une vitesse vertigineuse, ce qui induit à la création de, des écoles, privées soient-elles, ou, et à, aux engagements à tout moment des, d'enseignants. Mais il faut aussi noter que pendant un temps, il y avait ce qu'on appelait un moratoire, c'est-à-dire que les enseignants étaient dans les écoles, mais l'État ne pouvait pas, par son service qui est Sécopé, les identifier parce que c'était strictement interdit. C'est un fait de reconnaître qu'effectivement, après la levée de ces moratoires, suite à la tenue de la table ronde sur la gratuité, plusieurs enseignants se sont vus identifiés. Donc, c'est un élément technique qu'il faut pas oublier, mais cependant, il faut aussi noter que, puisque nous sommes dans une société où le chômage a atteint des proportions vraiment assez inquiétantes, et lorsque le gouvernement a informé qu'il se mettra à payer les enseignants à la suite de la mesure sur la gratuité, tous ceux qui étaient à la maison ont trouvé cela comme une occasion propice pour pouvoir être engagés et ces fêtes, donc bénéficier de tous les avantages.
Serge Bondé dit, est-ce que vous êtes d'avis, est-ce que vous rejoignez Godé Kayembe qui affirme qu'il y a beaucoup de cafouillage au niveau du Sécopé, les services de contrôle et de paye des enseignants?
Bon, je n'ai pas d'éléments pour attester. Nous sommes Humaillé, nous sommes une organisation nous travaillons sur base des indicateurs, mais il est vrai qu'en étant sur terrain, nous avons été témoins de plusieurs tentatives, des gens qui voulaient coûte que coûte se retrouver comme enseignants, même s'ils n'avaient pas qualité, même s'ils n'avaient pas droit. C'est ainsi qu'en son temps, nous avions demandé au gouvernement de pouvoir rendre les choses transparentes, c'est-à-dire permettre même aux organisations de la société civile ainsi qu'aux syndicats d'entrer en possession de ces fichiers et en corollaire organiser des contrôles parallèles dans le cadre du contrôle des citoyens des redevabilités pour pouvoir attester la fiabilité. Mais c'est une demande qui est restée pendante et cela alimente le doute. Mais voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet. Mais il est évident que par rapport à tout ce qu'on a vécu sur terrain au mois de février, lors de l'ORINI initié par le gouvernement, qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient peut-être pas qualité, qui ont profité de faiblesses. Vous savez, les gouvernements congolais excellent dans des faiblesses en termes de la gestion rigoureuse. Beaucoup de personnes ont profité de cette situation pour se retrouver dans ces fichiers. Il ne faut pas non plus oublier qu'au-delà des accusations faites par ces copains, mais il y a aussi le parti politique, notamment le PPRD et l'UDPS, qui ont injecté un grand nombre de personnes de leurs militants à travers ORINI pour que ces personnes soient payées et au finish rétrocèdent les cotisations au sein de leur pour le bénéfice de leur parti politique.
Bien. Comment surmonter les obstacles à la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo? Godé Kayembe, on va conclure avec vous. Alors, d'après vous, vous avez demandé au procureur de se saisir de cette affaire. D'après vous, il faut directement arrêter le secrétaire général ainsi que le ministre de l'EPST. Bon, maintenant, du côté des églises qui ont signé la convention avec l'État congolais, et qu'est-ce qu'il faut faire de ce côté-là?
Nous sommes allés faire le sit-in devant le bureau du cardinal en Bongo. Et nous avons déposé notre mémorandum. Et nous lui avons dit clairement qu'il n'a pas droit de s'ingérer dans l'organisation du système éducatif. C'est l'État congolais. Lorsque l'État confie en 86 la gestion des écoles aux églises, c'est juste pour les enseignements institutifs. C'est l'État qui dicte le principe, l'État qui dicte les modalités. Il n'appartient pas à un cardinal, que ce soit même à un évêque, de pouvoir changer les modalités qui séparent l'État. L'État subit de toutes les écoles que vous gérez. Les enfants de l'école primaire doivent pouvoir payer. C'est moi l'État qui paye les enseignants. Quel est ton problème? Pourquoi l'archevêque ou les gens entrent dedans?
Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi, si j'ai dit, si c'est moi j'étais le ministre à la place, j'avais tout de suite bloqué le salaire de tous les enseignants qui sont à la grève. Je bloque leur salaire, on s'est dit, parce qu'on ne peut pas payer les gens qui sont en grève illégalement, on les paye. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de laisser les enfants à leur détriment. Les enfants ont le droit d'être enseignés, et lui, il a le droit d'être payé. On paye les gens, l'argent aux gens qui ne travaillent pas. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi on disait en principe bloquer le salaire de tous les enseignants qui sont dans la grève.
Bien, merci Godé Kayembe. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci beaucoup.
Okapi danse de mercredi à vendredi à partir de 22h juste. Et le samedi à partir de 21h juste. Okapi danse, c'est la découverte des nouveaux talents. De nouveau sans des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Comment surmonter les obstacles à la gratuité de l'éducation des bases en République démocratique du Congo? Je vais vous inviter à présent, fidèles auditeurs, à suivre les réactions de quelques enseignants des écoles primaires à Kisesso 11 et 8 par rapport aux difficultés rencontrées par rapport à la gratuité de l'enseignement de l'éducation des bases. Ils sont au micro des Tati Mapuko. Suivez.
De milliers d'enfants, beaucoup d'enfants, disons, on peut préciser plus de 2000 élèves à l'école primaire. Et puis nous travaillons dans des conditions vraiment très très difficiles, malgré l'emplacement. Mais il y a une difficulté que nous traversons surtout dans cette école ici. Vous avez visité 3 cabines. Mais nous en avons besoin, qu'il faut qu'il y ait plus de cabines par rapport à notre population scolaire. Et puis il y a les problèmes d'insuffisance d'eau. Hein? Regardez, nous n'avons pas de citernes d'eau pour préserver ces enfants.
Décidément, comme je l'ai dit dans l'introduction, que c'est une école se trouvant dans une commune semi-rurale, nous compterions beaucoup plus d'enfants, mais vu les infrastructures, il était un peu difficile qu'on continue à recruter. Donc, bref, nous avons plus ou moins dans le complexe 3000 élèves et particulièrement 815 élèves à l'EP8 qui s'inscrivent.
Monsieur le directeur, une dernière question. On a décrété la gratuité de l'enseignement des bases depuis l'année passée par le président de la République. Est-ce qu'il y a eu une plus-value ici dans ce que vous faites sur terrain, dans l'enseignement? Comment ça se passe? Comment c'était par le passé et aujourd'hui?
Nous avons vu que beaucoup d'élèves sont venus, mais il nous manque de bancs. Il y en a qui se mettent à même le sol. Et certains enfants nous viennent à l'école non outillés. Il manque de bics, il manque de cahiers, il manque de ceci, de cela. Et il y en a même qui viennent sans uniforme. Qu'à cela ne tienne, nous acceptons tout le monde sans discrimination, c'est-à-dire les pauvres, les riches, les handicapés, et ainsi de suite. L'école, pour le moment, manque encore de latrines parce que le nombre croissant d'élèves font que vraiment nous prions pour que les œuvres philanthropiques nous viennent en aide.
Et vous savez que la gratuité de l'enseignement donne l'opportunité à tous parents de pouvoir bien scolariser leurs enfants. Mais les difficultés que nous avons rencontrées en est que la promiscuité des élèves, des fois, rend la gratuité d'enseignement baisse. Mais nous voulons qu'il y ait du recyclage, avoir des compétences à notre domaine. Mais seulement, comme il y a beaucoup d'élèves dans des salles de classe, nous voulons à ce qu'il y ait beaucoup de pupitres.
Bien, merci Tati Mapuku pour ce micro-baladeur. Nous avons de nouveau en ligne Jacques Chimbalanga, coordonnateur national du CONEPT. Jacques, vous êtes là?
Oui, je suis là. Voilà. Des difficultés, mais on est là.
Oui, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Maintenant, on vous entend parfaitement bien. Vous avez suivi quelques enseignants qui se sont exprimés par rapport à la gratuité. C'est bien. Les écoles reçoivent maintenant beaucoup d'élèves, mais ils posent un problème d'infrastructure. Il n'y a pas assez des locaux pour accommoder tous ces enfants. Alors, il y a surpeuplement dans les salles de classe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Eh bien, les difficultés sont difficultés. Et juste dans la planification de l'offre de la gratuité, on l'a placée dans le cadre des essais.
Décidément, Jacques, les lignes sont très mauvaises aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je reviens à vous. Serge Bondé dit, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous avez suivi les préoccupations de ces enseignants-là par rapport à la surpopulation. Il y a beaucoup d'élèves dans les salles de classe. Il n'y a pas assez de locaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter cet obstacle?
Oui, c'est un fait vrai qu'on a certifié au mois de décembre l'an 2019 lors d'une enquête qu'on a fait ciblée axée sur 100 écoles où effectivement il y a pénurie des bancs et cela entraîne a des effets sur la qualité de l'enseignement parce que quand les enfants sont en surnombre sur un banc, cela désaltère même la capacité en termes des apprentissages en écriture. Il y a nécessité d'équiper les écoles en banc. Mais ce qui est quand même curieux, ça va faire, on est déjà une année après le lancement de la gratuité. Rien de costaud a été fait dans ce sens. Ce qui prouve à suffisance une sorte de léthargie dans la gestion de la réforme sur la gratuité, c'est écœurant, ça fait énormément mal et on ne peut que demander au gouvernement d'être suffisamment sérieux parce que effectivement la gratuité a provoqué les afflux, mais il y a aussi beaucoup d'écoles que nous qu'on a découvert qui ont des salles, mais ces salles ne sont pas occupées parce que tout simplement il n'y a pas de bancs. Donc, il y a des locaux, il y a des bâtiments qui nécessitent d'être équipés en bancs pour pouvoir absorber un plus grand nombre d'enfants. Et cet état des choses fait assez qu'il y ait une concentration d'enfants dans certaines parties, alors qu'il y en a d'autres qui pouvaient aussi accueillir suffisamment d'enfants. Donc, il faut équiper les écoles en banc, il faut relancer le projet Purus, le projet sur la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires.
Il y avait même à l'époque un projet de construction des 1000 écoles.
Oui, un projet qui est resté l'ombre de lui-même. On ne sait pas où sont construites ces 1000 écoles. Le peu d'écoles qui ont été construites, c'était sur base de quelles normes? Parce que il a fallu que la surface des salles soit connue, la hauteur soit connue, mais il y a à boire et à manger dans ces projets. Bref, c'est un projet qui est resté l'ombre de lui-même. Donc,
Serge, on va accueillir Diego Kakoko de Kinshasa. Bonjour Diego.
Bonjour Radio KP, tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour surmonter les obstacles à la gratuité de l'enseignement?
Bon, à ce jour, il faut d'abord reconnaître que la procédure d'enregistrement des écoles a été biaisée par les gens d'une institution là qui œuvre dans le ministère de l'EPSP.
Vous voulez parler du CECOP?
Oui, la CECOP a vraiment biaisé parce que à ce jour, moi j'ai témoigné, à ce qui concerne les écoles enregistrées à Kinshasa, Ngaliema 3, il y a vraiment des écoles qui détiennent plutôt des arrêtés fausses, des fausses arrêtés délivrés par les agents de la CECOP. Voyez-vous, cette procédure d'enregistrement des écoles a biaisé voire même sur le principe de la gratuité tel que consacré par la Constitution. Mais hélas, ce qui est déjà fait est fait, mais il faut, ce que nous souhaitons, il faut qu'il y ait d'abord la poursuite judiciaire à l'égard des auteurs qui ont commis ces actes infractionnels à l'égard pour saboter la gratuité, il faut qu'il y ait un audit au niveau de la CECOP et au niveau de la, du ministère. Mais nous détestons encore la pratique de l'Église catholique parce que l'État congolais est un État laïque. Il faut que l'Église catholique respecte les principes de la gratuité tels qu'est inscrit par la Constitution. Nous sommes tous soumis à la Constitution. On ne convient pas, on n'en discute pas ce qui concerne le NI. C'est un problème qui se pose. On devait se prendre en charge. Donc l'État a bel et bien prévu ces mécanismes. Il a promis aux enseignants des NI, on a déjà commencé avec d'autres écoles, que l'Église catholique soit patiente pour que l'État régularise leur situation.
Merci.
Demandant encore l'argent au niveau
aux parents. C'est pas du tout intéressant.
C'est pas encouragé. Oui, c'est un pratique qui n'est pas intéressant. Ça viole d'ailleurs le principe de la gratuité.
Merci Diego Kakoko de Kinshasa. Isaac Jackissa, vous êtes à Bounia. Vous êtes une nouvelle unité dans l'enseignement. Bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire, Isaac?
Merci encore de plus pour vous associer à cette émission. En fait, je me vois moi comme NI enseignant parce que j'ai fait presque 5 à 10 ans dans l'enseignement, dans l'école publique. Aujourd'hui, on m'appelle encore NI, même pas NT. En fait, nous étions intéressés sur ces sujets qui montrent que les autres élèves, les parents ne devront pas payer les enseignants. Or, ce n'est pas ça le cas. Nous sommes en train d'enseigner, nous sommes secrets. Comment devront se tenir devant les enfants? Voilà pourquoi les parents qui sont conscients, qui veulent que l'éducation de leurs enfants puisse être en avant, ils se sont souciés à prendre la responsabilité, semble être même dire, décidée par l'État ou le gouvernement, et ils sont mobilisés à motiver ces enseignants NI qui le sont. Et voilà pourquoi nous encourageons encore cet acte. Que les parents ne puissent pas baisser leurs bras en fait, pour prendre la responsabilité des payer les enseignants elles. Mais encore, j'avais dit hier avant-hier, comme étant représentant de l'enseignant de notre école publique et junior, j'ai cité le nom, nous avons tenu une réunion. Et fort notre souci, la réunion n'a été même pas réclamée par les enseignants, mais la réunion a été imposée par les parents eux-mêmes. En disant, en regardant par exemple les grèves.
Alors, Isaac, pour terminer, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ces obstacles-là?
Pour arriver à bannir, je ne sais pas si c'est cet acte, mais en fait, nous encourageons, c'est ce que je dis, nous encourageons les parents qui puissent prendre la responsabilité de motiver les enseignants, parce que nous n'avons pas l'espoir aujourd'hui. Que l'État, le gouvernement pourra avoir réalisé leur rêve.
Bien, vous voulez que les parents reprennent la prise en charge de l'éducation parce que l'État congolais ne rassure pas. Serge Bondedi.
Oui, merci. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres, mais il y a intérêt à recadrer. Le CECOP ne délivre pas les arrêtés. Cela est une responsabilité soit du ministre au niveau national, soit des gouverneurs au niveau des provinces ou par l'air d'intermédiaires qui sont de directeurs provinciaux. Ce sont eux qui sont habilités à délivrer des arrêtés. Mais il faut cependant reconnaître qu'il y a à boire et à manger sur la question de délivrance des arrêtés. C'est ce qui a fait que, lors de l'ORUNU, plusieurs écoles détenant de faux arrêtés ont été décelées. Et c'est même une question que, lors de certaines rencontres, le gouvernement a reconnu qu'effectivement, il y a un problème sur la fiabilisation de délivrance des arrêtés. S'agissant de l'Église catholique, nous continuerons à les dire. Et je crois à chaud, c'est même regrettable, que même après la rencontre qu'il y a eu entre le ministre d'État et le cardinal Fridolin Mbongo, qu'il y a toujours des écoles conventionnées catholiques qui continuent à, avec le mauvaise habitude. Je vous cite à Kinshasa, province éducationnelle Moamba, l'école primaire Eli Mosantou, où la grève sèche continue. Les enfants n'étudient pas. Nous sommes au mois de décembre. Bientôt, ils iront en congé. Les enfants n'étudient pas. Il y a d'autres écoles à Kitambo où on demande aux parents de payer $130, bien que le ministre a rencontré les cardinals. Donc, une sorte de, d'hypocrisie qui vraiment nous équerre.
Il y a même d'autres écoles conventionnées qui demandent aux parents de payer 250 pour les élèves qui sont en sixième et septième.
Ils sont nombreuses. Nous avons vu la lettre du secrétaire général interpellant le coordinateur national des écoles conventionnées catholiques jusqu'à brandir le menace du retrait d'agrément et de fermeture. Des sanctions de ces chefs d'établissement. Nous attendions que les sanctions soient sévèrement infligées à ces gens mal intentionnés, sinon ça restera lettre morte. Mais cependant, il faut avouer qu'il y a des problèmes sérieux dans le fonctionnement des écoles, parce que nous l'avions toujours dit que la réforme sur la gratuité n'est pas une automate, n'est pas un robot, ce n'est pas une machine. C'est une réforme qui nécessite être suivie, qui nécessite être encadrée, qui nécessite beaucoup d'actions pour sa consolidation et sa pérennisation. Depuis que nous avons fait des émissions, même avec vous, la radio Okapi, mais il n'y a toujours pas de réunions qui sont convoquées.
Il y a un auditeur a proposé qu'il y ait même un audit au niveau de... du CECOP, qui est des interpellations et qu'on puisse suivre de près ce qui se passe.
Vous savez, monsieur Jody, ces histoires des audits, je crois qu'il y a une émission où on a fait avec vous il y a quelques mois, où je vous avais dit que ce sont des choses que nous ne prêtons pas suffisamment beaucoup de crédit. Il a été annoncé ici l'audit du CECOP pour une semaine. Où en sommes-nous avec les résultats? Les enquêtes et les audits dans notre pays sont des histoires à dormir debout. C'est pour faire dormir les gens debout. On a audité ces copains, nous ne savons pas le résultat, si nous sommes à quel niveau. C'est ainsi que nous disons toujours que l'école est devenue un business où tout le monde trouve son compte, que ce soit le gouvernement et tout le monde. Donc il y a ici, il faut que les citoyens soient vigilants pour veiller sur un certain nombre de faits, parce que s'il faut attendre du gouvernement, ils vont continuer à nous faire dormir debout avec ces histoires du CECOP. Espérons peut-être que les choses iront mieux. Donc la responsabilité des uns et des autres est importante, parce que nous sommes dans une société avec un contexte de corruption généralisée où l'école étant un business, les acteurs en présence ont du mal à œuvrer dans le sens à aider les choses à avancer,
oui. Parce que oui. Chacun y tirait son compte.
Chacun tire son compte, donc il y a des gens qu'on a identifiés qui, en tout cas, nous estimons n'ont pas qualité, parce que jusqu'à à la preuve du contraire, le fichier demeure tabou, il n'y a pas la transparence.
Serge Bondé dit, merci beaucoup, on va s'arrêter là, on n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la campagne École ESA Mombongote. À la prochaine.
Je vous remercie.
Bien, nous clôturons cette première partie de l'émission Okapi Service. Nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder un autre thème. Quel est le rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie? Des questions et préoccupations composées les 081 890 63 94.